Vous reprendrez bien un peu de science-fiction. Vous reprendrez bien un peu de science-fiction. Ça va, le son est bon ?
Ouais, nickel.
Bon, ça c'est fait, on est prêt à enregistrer. Bon, bah, il n'y a plus qu'à. Bah, je commence à avoir un peu la dalle, moi. T'aurais pas un truc à grignoter ou quelque chose où je vais aller voir ?
Hop, attends, bouge pas. Tiens, j'ai ce qu'il te faut.
Ah, c'est cool ça. Toujours prévoyant, je vois.
Alors, il ne faut jamais se faire surprendre niveau graille. Toujours avoir un truc sur soi, juste au cas où.
Ah, et pourquoi ça m'étonne même pas ?
Bon, allez, tiens, tape dans le sac, ça t'évitera de dire des conneries.
Merci, bien. Pas mauvais, disons, ce truc-là.
Ouais, c'est un truc qui vient de sortir. C'est éco-responsable, qu'ils ont dit.
Tu m'en diras tant.
Sinon, c'est quoi le sujet de l'émission ce mois-ci, alors ?
La nourriture dans la SF.
Ah ouais ? Mais tu vas nous parler d'un film en particulier ?
Pas vraiment. C'est surtout un tour d'horizon de ce qu'on peut voir dans les films. Comment on voit lier la bouffe du futur dans le passé ?
Hein ?
Bon, par exemple, dans les années 50, dans tout bon film de SF, et dans toutes les idées qu'on se faisait du futur, on voyageait dans l'espace, comme on prend l'avion, et on mangeait des pilules. C'était le must à l'époque. Ça faisait tellement moderne.
Super. La tronche des Smarties, tiens.
Bah oui, mais bon, il fallait avoir un truc à l'opposé du plat en sauce du dimanche midi, un truc simple et efficace, concret et bien industriel, comme il va de soi.
Oh, la gueule du futur de se passer.
Hein ?
Enfin, je veux dire...
Ouais, c'est bon, j'ai compris. C'est Kubrick qui va taper juste le premier avec 2001, l'Odyssée de l'espace. Lors du voyage de Ewood Floyd vers la Lune, on lui sert des barquettes avec une petite paille.
Super ! Bon, alors, la purée, je vois bien. Mais pour faire passer un poulet frite dans une paille, bah, ça va pas être simple.
D'accord, mais il y a une bonne raison à ça. En cas d'apesanteur, ton poulet va recommencer à voler et les frites vont se foutre dans tous les coins. Ça va être le cirque.
Ok. Toi qui sais tout, tiens, comment on fait alors pour avoir de la vraie bouffe ?
On utilise des procédés scénaristiques.
Des quoi ?
T'inquiète. On invente la gravité artificielle. Tous les réalisateurs ne sont pas aussi pointus que Kubrick. Le spectacle prend parfois le pas sur la rigueur scientifique. Et simuler l'impesanteur, c'est un poil compliqué. En plus, réunir tous les personnages autour d'un repas, c'est pas mal niveau histoire. On introduit tout le monde d'une traite, on perçoit la psychologie de chacun.
Et t'as des exemples ?
Sunshine, de Danny Boyle. Dès le début du film, on voit tout l'équipage réuni pour un repas. On fait le tour vite fait des équipiers et on découvre la psychologie de certains d'entre eux. Cette réunion pose les bases de l'ambiance du film.
Ouais, pas convaincu. Et puis la scène n'est pas très longue. Dans le genre introduction des persos, c'est du rapide.
Ok, tu vas à un autre exemple. Alien, le premier, sorti en 79. Là, c'est du plus développé, plus à ton goût, je suppose.
Là, d'accord. Même si ça se finit un peu en autre boudin.
Oui, d'accord. Disons que le repas va se terminer un peu plus vite que prévu, privé de dessert. Et donc, comme je te le disais, la gravité artificielle résout beaucoup de problèmes.
Ou alors, on ne mange pas quand on est dans l'espace.
C'est-à-dire ?
Un procédé scénaristique, comme tu dis. L'hibernation. Tout le monde dort et zou, c'est réglé.
Tout juste. C'est aussi pour ça qu'on réfléchit sérieusement à l'hibernation, pour faire des économies sur les provisions embarquées pour les longs voyages.
Et tu vas parler de Star Wars ?
Ah bah oui, le fameux lait bleu dans les Tupperware au début d'épisode 4.
Et de la scène entre Padmé et Anakin dans l'épisode 2 ? Tu sais, celle où Anakin utilise la force pour éplucher une poire ?
Oui, même si j'aurais préféré ne jamais voir ça. Et puis une poire, quoi. Comme s'ils avaient séché pour trouver un truc un poil érotisant. Bref.
Et Dark Vador, il fait comment pour manger, lui ?
Si j'ai bien compris, c'est quand il se trouve dans sa capsule et qu'il peut enlever son casque. C'est pas vachement pratique.
Les ingénieurs qui ont réfléchi à son armure, ils auraient pu bricoler un truc pour qu'il puisse au moins boire sans enlever son casque.
T'imagines, toi, le seigneur Sith, redouté de toute la rébellion, l'âme damnée de l'empereur, boire avec une paille ?
Ouais, c'est pas faux. Ça casse un peu le mythe.
Dans le genre perso en armure, il y a Robocop aussi. Bon, la bouche est visible, c'est plus simple.
Et lui, il a le droit de manger quoi alors ?
Une sorte de petit pourpre bébé, du fonctionnel, juste pour que la partie organique ait ses nutriments et ses protéines. Et en plus, ça n'a pas l'air mauvais. Dans le film, on voit un des responsables du projet Robocop en manger, et il a l'air de trouver ça bon. Mais pas mauvais, c'est fait avec quoi ?
Des planctons qui paraît. Ce serait une solution d'avenir pour fournir des protéines animales à toute la population avec moins de conséquences pour l'environnement.
Ouais, à voir. Tant qu'on n'en est pas réduit à se taper la bouillie infâme que Neo doit ingurgiter dans Matrix...
Oh oui, la vache. Si se libérer de la matrice veut dire manger ça à chaque repas, moi je passe. Je fais comme le traître qui se régale d'une bonne entrecôte, tiens.
Eh oui, sauver l'humanité demande quelques sacrifices.
La merde, ouais. On ne touche pas à la tambouille. C'est sacré.
Tu vas pas aimer ce qu'ils font dans le Fils de l'Homme, alors.
C'est-à-dire?
Bah, dans le film, l'humanité est au bord de l'extinction. Infertilité, pollution, guerre, totalitarisme... bref, le paradis sur Terre.
Ouais, et
ils bourrent la nourriture d'antidépresseurs.
Sérieux?
Bah, oui. Et encore, ils fournissent des kits de suicide. L'un expliquant l'autre, va savoir.
Ah, dis donc, c'est la grosse rigolade, dis-moi.
Bah oui, c'est ça qu'on appelle une dystopie.
Une
dystopie, c'est une vision de l'avenir pas fofolle. En gros, si quelque chose doit merder dans le futur, ça merdera forcément.
Et tes visions de l'avenir, elles sont toutes aussi déprimantes?
Oh bah non, il y en a bien eu une ou deux qui sont pas si dramatiques.
Genre
retour vers le futur, numéro 2. Là, on est en 2015.
La gueule de ton futur, 2015. Eh, t'es au courant qu'on est en 2022, mon pote?
Je suis désolé, mais en 1989, quand il est sorti, 2015, c'était le futur.
Bon, mettons. Et donc, en 2015?
Il y a du bon et du moins bon. Il y a des fruits frais, en tout cas chez les McFly. Mais il y a aussi des pizzas déshydratées que, je cite, « Mamie McFly réhydrate comme personne ». Et la machine, elle est plutôt rapide pour te réhydrater.
Mais quel intérêt? Il manque de place?
Non, pas visiblement.
Mais alors, pourquoi faire des pizzas déshydratées pour une famille? Ils sont pas dans l'espace!
Eh mais m'engueule pas, moi, je suis pas scénariste. Le four micro-ondes existait déjà depuis un moment. Il fallait une machine grand public, originale, qui fasse futuriste en 89. Tu noteras qu'on l'attend toujours. Hein.
Ça commence vraiment à me donner faim, tout ça. Et il va falloir un truc un peu plus consistant que ces crackers. Eh, burger après l'émission, ça te dit?
Ah bah oui, tiens. Au fait, tu sais que dans le futur, les burgers existeront toujours. La preuve dans Cinquième élément de Luc Besson. On est en 2263 et McDo est toujours présent.
Ah, en voilà une bonne nouvelle. Le futur n'est pas aussi pourri que ça, finalement.
Eh oui. Il y a même une marque qui va sauver l'humanité après une grande catastrophe.
Ah ouais?
Dans Demolition Man. On explique aux héros qu'après le grand tremblement de terre qui a ravagé la Californie, ce sont les restaurants Pizza Hut qui ont nourri la population.
Oh, c'est beau.
Eh ouais, comme quoi, tout n'est pas perdu.
Oui, vive le capitalisme!
Bon, faut peut-être pas pousser non plus. Hein. Parce que le genre de lutte des classes en SF, ça passe aussi par ce qu'on mange.
Ouais, logique. Et comme tu as mal répété, la SF est un filtre que l'on pose sur notre société.
Bah, vas-y, moque-toi. Mais quand tu monteras dans le transpersonnage, tu préfères être à l'avant du train plutôt qu'à l'arrière.
Laisse-moi deviner. Les pauvres sont en fin de convoi et mangent de la merde?
Pas tout à fait. Et je peux même te dire qu'ils ont leur dose de protéines. Ils ont droit à une portion de gélatine brunate quotidienne. Pas vraiment appétissante, mais nourrissante.
Ouais. Et elle est où l'embrouille?
Bah, c'est la source des dites protéines.
Je sens que ça va pas me plaire.
Bah, c'est que...
Bon, tu la craches, ta valda?
La gélatine est constituée d'insectes broyés. Bon, ok, d'accord. Mais en même temps, on nous rabat les oreilles que ce sera la base de notre nourriture dans quelques années.
C'est bon, je te la laisse, la nourriture du turfu, là. Il est pas né, celui qui me fera bouffer des insectes.
Bon, oh, on y viendra, tôt ou tard.
Ah, vas-y, tiens, commence, toi.
Mauviette.
On ne me traite jamais de mauviette.
Bon. Admettons que l'on fasse l'impasse sur les insectes.
Ouais.
Tu t'y connais en culture?
Quoi?
Les patates, tu sais les faire pousser.
Ouais, en même temps, c'est pas bien compliqué.
Sur Terre, oui. Mais sur Mars?
Sur Mars.
Dans Sol sur Mars de Ridley Scott. Dans Sol sur Mars de Ridley Scott, Matt Damon se retrouve...
Hop. Laisse-moi deviner. Sol sur Mars?
Ouais, dis donc, c'est que t'es un malin, toi.
Ouais, je sais, ouais.
Bref. Donc, coincé sur Mars et avec pas suffisamment de provisions pour survivre au prochain ravitaillement... Il va devoir s'improviser cultivateur.
Un astronaute cultivateur?
Oui, mais il a également une formation de botaniste.
Le hasard fait quand même bien les choses, non?
Oui, mais sinon le gars meurt de faim au bout de quelques semaines et le film, ça devient un court-métrage.
Bon, il est botaniste et...
Il arrive à cultiver quelques rangs de patates à l'intérieur de la base martienne. On a le droit à toute une séquence, très marrante au demeurant, pendant laquelle il explique comment il s'y prend.
Objection, votre honneur!
Oui.
Ton botaniste astronaute, là, il fait comment pour faire pousser ses patates? Alors, je suis pas un pro en exobiologie, mais il me semble que la Terre martienne est un poil stérile, non ?
Tout juste. Très bonne question. Et je te remercie de l'avoir posée.
Mais tu te prends pour un politicien, maintenant ?
Et humour, ok ?
Et donc ?
De la merde.
Pardon ?
Il utilise de la merde, les excréments de l'équipe, déshydratés, conservés sous vide.
Je sais pas si je préfère pas les insectes de tout à l'heure.
Ah, c'est ça ou tu meurs de faim.
Ouais, mais bon, c'est chaud quand même.
Je dis pas le contraire. Dans la Station Spatiale Internationale, ils recyclent la vapeur d'eau que les astronautes produisent et leur urine.
Mais c'est un club SN, la NASA, ou quoi ?
On économise le poids envoyé dans l'espace par tous les bouts. Ça coûte cher, une fusée.
Ok, mais là, quand même, quoi.
Je dis pas que c'est facile. Psychologiquement, les premières gorgées doivent avoir un drôle de goût.
Je pense bien, oui.
Les joies de la conquête spatiale. C'est vraiment pas mauvais, tes crackers, là. C'est quoi la marque, déjà ? Histoire que je ramène à la maison ?
Ça a un nom rigolo. Ça s'appelle Soleil Vert.
Quoi ? Réalisé par Richard Fleischer et sorti en 1973, Soleil Vert prend place en 2022. Eh oui. Et puis une bonne année, hein. L'action prend place dans un New York surpeuplé, pollué et subissant la canicule. Les sans-abri dorment dans les escaliers des immeubles et des émeutes de la faim sont matées par une police qui ramasse littéralement les manifestants à coups de camions poubelles. Il semble que toute la planète ait droit au même traitement. Le héros, interprété par Charlton Heston, est un policier qui enquête sur la mort d'un dirigeant de la société Soylent. La société Soylent semble être la seule à pouvoir fournir de la nourriture à la population. Il s'agit de nourriture industrielle, évidemment. Ici, les produits frais sont devenus extrêmement rares et seuls les plus riches peuvent en acheter. Notre héros, Frank Thorne, va donc se rendre dans un ghetto de riches, on ne mélange pas les torchons et les serviettes, pour commencer son enquête. Dans l'appartement, il y croise une jeune femme, qui ferait partie des meubles. Oui, donc en plus d'être au bord de l'apocalypse environnementale, cette société cautionne l'esclavage sexuel. Voilà, voilà. Alors qu'il interroge la demoiselle, l'enquêteur fouille l'appartement et en profite pour faire ses courses. Viande, beurre, légumes et même du savon. Ça peut paraître totalement déplacé, mais dans cette société où la misère transpire de partout, un simple flic qui se trouve plongé dans cette opulence peut facilement succomber à la tentation. sans que personne ne semble offusqué par la démarche. Il ramènera son butin à son appartement miteux qu'il partage avec Sol, un vieillard qui pleurera en découvrant les aliments. Sol qui a vécu cette déchéance. Enfant, il a pu savourer de vrais aliments, et il est amer de voir comment a évolué le monde. Il est toutefois d'une aide précieuse pour Thorn. Il a des connaissances et un réseau qui vont l'aider à faire progresser l'enquête. Malgré de mystérieux tueurs à ses trousses et des collègues corrompus, ses recherches commencent à agacer en haut lieu, et le faire taire devient une priorité. De son côté, Sol, horrifié par la découverte de la raison de la mort du dirigeant de Soylent, se résigne à se rendre au foyer. Le foyer est le lieu où se rendent les personnes qui souhaitent être euthanasiées. Une société où l'euthanasie est quasi industrialisée n'a pas un avenir radieux devant elle. Juste avant de mourir, Sol divulgue le secret de Soylent à Thorn. Celui-ci échappe de peu à la mort avant de délivrer son secret à son supérieur, le suppliant de diffuser l'information, ce qu'il fera. Ou pas. Mais donc, quel est ce secret? Vous l'aurez deviné, je suppose, le soleil vert est fabriqué avec les personnes qui sont euthanasiées. Supposément fabriqué à partir de plancton, sauf que les océans sont stériles. Ce film ne se résume pas à son annonce finale. Il est un pamphlet contre une société qui a commencé à accélérer son développement à partir de la révolution industrielle et, sans jamais ralentir, va se retrouver dans cette hypothétique année 2022. De la dystopie pur jus qui pousse les curseurs au max, mais qui n'est pas si éloignée de la nôtre. Pollution, changement climatique, industrie agroalimentaire, nous sommes tous exposés plus ou moins à ces problématiques. Ce sont des thématiques universelles. Se nourrir, se loger sont des besoins basiques. Le sujet de la nourriture en SF peut paraître futile, voire comique. On peut s'amuser de penser à quoi ressemblerait la nourriture dans le futur. Dans notre situation, plus ou moins confortable, où l'on mange à notre faim, cela révèle plus de la prospective légère que de penser aux pilules et autres plats lyophilisés à la disposition des voyageurs galactiques. Mais quand on se pose la question de nourrir une population entière alors qu'on n'a que des ressources limitées. Je me souviens d'une BD dont j'ai malheureusement oublié le nom, où l'on voyait une France réduite à être une exploitation agricole gigantesque au point d'avoir réduit les monuments historiques à la taille de maquettes pour gagner le maximum de place. On entend déjà des scientifiques nous alarmer sur les changements climatiques qui commencent à influer sur les cultures traditionnelles de certaines régions. On peut trouver drôle de penser à voir apparaître des vignes en Bretagne dans 40 ou 50 ans. Mais cela signifiera un changement complet de l'agriculture dans nos régions. Malgré tous les progrès de la science, la production et la nourriture restent encore tributaires d'éléments hors de notre portée. Petit aparté. J'ai commencé l'écriture de cette émission début mars 2022. La guerre en Ukraine avait commencé depuis seulement quelques jours et les conséquences qui en résultent apportent une nouvelle optique. Dans cette émission, je parle surtout de changements climatiques et de pollution qui nuisent à la production alimentaire. Il y a un angle auquel je n'avais pas pensé et qui paraît évident maintenant. En plus de voir une guerre en Europe, on constate que celle-ci a également une influence sur la production alimentaire mondiale. On commence à parler de pénurie de certains produits et de constater ladite pénurie dans les rayons de nos magasins. Comme quoi, l'anticipation est un art subtil qui prend des tours parfois bien concrets et qui donne des airs de dystopie. La machine bien huilée peut gripper pour de nombreux prétextes. L'équilibre semble de plus en plus précaire, et un jour, et plus rapidement que prévu, nous serons, nous, peuple occidental, exposé à des ruptures alimentaires que l'on croyait réservées aux seules nations du tiers-monde. Et qu'une entreprise nous proposera des aliments à base de plancton. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain numéro de « Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ».